12h30, 13h, chaque jour sur RKS, c'est l'invité du jour.
Bienvenue à vous chers auditeurs d'RKS 97FM dans votre émission L'Invité du Jour qui aujourd'hui reçoit un auteur, compositeur et interprète grenoblois mais pas que puisqu'il est universel dans sa manière de travailler, c'est monsieur Arash Sarkecik. Arash, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue en studio, bienvenue sur RKS 97FM. Alors je souhaitais t'inviter aujourd'hui puisque ça fait longtemps que tu parcours les scènes notamment grenobloises mais pas seulement puisque tu exportes ta musique eh bien, partout où on veut bien l'entendre, tout simplement. Revenir un petit peu sur ton parcours, parler de tes actus et puis eh bien, de ton travail, effectivement, d'artiste qui s'égrène depuis de longues années maintenant, puisqu'on a pu te rencontrer sur les scènes grenobloises il y a maintenant plus de 20 ans, n'est-ce pas,
hein? C'est ça.
Ah oui, bon, on ne va pas dire l'âge que tu as, parce qu'on ne va pas être désagréable non plus.
Si, je l'assume.
Bien sûr, pas de souci. Et donc, on va comme ça parler un petit peu de ton travail, passé, présent et futur. On t'a vu donc pour les premières fois sur scène, à la grande époque du Magic Bus, n'est-ce pas?
Oui.
Le lieu, le local, hein, n'est-ce pas, qui était rue Gabriel Péri.
C'est ça.
Disquaire indépendant et indispensable, qui faisait des showcases et qui mettait en relation à l'époque des artistes avec eh bien, des musiciens, des réalisateurs, bref, essayer de faire en sorte que la scène locale émerge tout simplement, se croise, s'enrichisse et puis crée ensemble. C'était donc le groupe Shahadi.
Mmh. Oui, c'était la première formation à laquelle j'ai participé. On était tout jeunes avec les copains. On a trippé l'esthétique reggae, dancehall, l'esprit des sound systems. À l'époque, quand on avait encore plus ou moins le droit, on organisait beaucoup de sound systems dans la nature. Moi, c'était ça notre trip. Et puis du coup, avec les copains, on a commencé à travailler autour d'un groupe de musique, Shahadi. Dans lequel j'avais déjà quand même cette envie de mixité et qu'on a partagé d'ailleurs beaucoup avec les copains qui sont restés des grands copains. Beaucoup sont aussi musiciens aussi aujourd'hui. Et voilà, et la rencontre avec la ville, parce que nous, on venait du coin de Cessiné, Fontaine, Cessin. Et du coup, à un moment donné, on est allé à la ville, comme dirait l'autre. Et du coup, en fait, je me souviens, on avait enregistré une répète avec un poste, avec une cassette audio, quoi. C'était vraiment... c'était il y a longtemps, quoi.
C'était la bricole.
C'était de la bricole. Et puis, on était arrivés, puis on posait nos cassettes dans les bars de la ville, les cafés-concerts. À l'époque, il y en avait plein. Bon, maintenant, ça revient, mais il y a eu une grosse période où il n'y avait plus rien du tout.
C'était
là,
très triste. Le soir était un petit peu fermé, bouclé, voilà. En dehors des salles dédiées. Il y avait
c'est ça. Et là, j'ai l'impression que ça revient. Ça me fait plaisir, du coup, que les gens se réapproprient un peu la cité. Ça fait plaisir. Et du coup, on est tombé sur le Magic Bus et direct, on est devenus très, 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 très proches avec le temps. Et ils nous ont beaucoup accompagnés. On connaissait rien du tout du métier. Voilà, nous expliquer comment ça marche, un circuit de production, trouver de la diffusion, voilà, tous ces termes, à quoi ça correspondait, dans quel ordre faire les choses. Voilà, c'était le pied à l'étrier, comme on dit.
Oui, c'est très formateur, du coup, c'est sur scène que ça se passe, mais aussi dans les backstage, c'est-à-dire comment on articule tout ça, sur qui s'appuyer, où trouver des ronds, des studios, etc.
Quand tu as envie d'en faire ton métier, il y a des choses à connaître. Après, tu acceptes ou tu refuses, mais il y a une manière de faire, il y a des relations à avoir, des partenariats à développer. Voilà, après, c'est à toi aussi de choisir comment tu as envie de faire les choses, mais c'est bien en tout cas d'avoir une connaissance globale de comment ça se passe, quoi.
Alors, dans ton parcours personnel, on sait que, à l'origine, n'est-ce pas, de ta formation musicale, tu es passé par le conservatoire de Chambéry, notamment, avec la flûte comme instrument de prédilection, il y a longtemps, maintenant.
Non, mais en fait, c'est sur le tard. Moi, ça s'est passé en plusieurs temps. Pardon, je te coupe.
Oui, je t'en prie.
Moi, j'étais à l'école de musique de base, à côté de là où ma mère habitait. Voilà, j'ai commencé avec la flûte traversière. Pourquoi, je sais pas. Voilà, il y avait ce son cristallin qui m'a fasciné. Et puis voilà, et du coup, c'était assez ludique pour moi, tout ce qui était solfège, etc. Donc, puis on avait une école qui était bien riche. On partait à l'étranger avec l'orchestre, etc. Et après, moi, je me suis arrêté parce que la flûte traversière, ça correspondait pas forcément à ce que j'avais envie de faire. Et après mes études, après le bac, je savais pas quoi faire. Je suis allé me planquer en musicologie, en fait, pour être honnête. mais en fait, 6 mois après, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un univers à explorer. Et puis c'est là, en fait, que j'ai commencé vraiment à prendre conscience que j'avais envie de faire ça et de vraiment dessiner une route dans ce truc-là. Donc je suis allé au conservatoire de Grenoble, mais hyper tard, en fait, finalement. Et voilà, j'ai eu mon DEM. Et après, comme il y avait une mouvance comme ça avec les copains, on est tous allés à Chambéry. Et puis voilà. Après, ouais, voilà, c'est ça qui s'est passé.
Et parmi donc cette formation classique, il y a aussi ce volet jazz, c'est ça, enfin classique du jazz, parce que alors c'est le grand débat perpétuel.
Non,
le jazz est-il une musique classique? Mais enfin bon, c'est pas ça la question. En tout cas, ça donne une base, en tout cas, de solfège et de.
Disons que je connais le vocabulaire, je connais l'histoire de la musique,
l'alphabet
de la musique,
je suis capable
de l'entendre de manière un peu musicienne, quoi. Et après, ça enlève pas, c'est pas ça qui apporte vraiment, quoi. Mmh. C'est une partie des choses. Après, la musique, c'est d'abord jouer, c'est d'abord écouter, c'est d'abord échanger. On n'est pas obligé d'avoir tout ce vocabulaire, mais moi, en tout cas, je m'en sers de temps en temps.
Mmh. Et donc, justement, dans tes influences, justement, le fait d'être né dans une famille iranienne, justement, tes parents sont iraniens. Quelle part justement d'influence cela a constitué dans ton répertoire, alors passé et présent et futur? Comment on arrive à mélanger tout ça? Est-ce qu'on en est conscient d'une part, ou ça arrive comme ça de manière naturelle un petit peu parce qu'on a baigné dedans?
Moi, dès tout petit, je prenais la flûte, on entendait l'Orient. Après, donc il y a quelque chose d'induit. La culture iranienne, c'est une culture très 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 ancienne. Le rapport à la poésie, ça tout le monde le sait, on a Rumi, on a Hafez, on a Omar Khayyam, pour citer les plus connus que les Européens peuvent connaître. Le rapport donc à la poésie, à la musique, à la danse, après c'est comme tous les peuples un peu orientaux, Afrique du Nord, voire Afrique noire, les peuples qui ont encore un rapport avec leurs racines et leurs origines. Et du coup, c'est vrai que la musique à la maison, c'était tout le temps là, et ça tu t'en rends pas compte. Et moi je me suis mis à jouer des choses, à composer des trucs, et en fait très vite il y a eu cette espèce de mixité en fait.
Ce métissage de fêtes un petit peu.
Voilà, donc, et après quand tu commences à le travailler, tu te rends compte que c'est hyper intéressant, surtout moi je pense qu'aujourd'hui à 39 ans, du coup j'ai dit mon âge.
Aïe.
Non, c'est pas grave. À 39 ans, j'ai conscientisé pas mal de choses et je sais que c'est important en fait de porter, de montrer que la mixité c'est possible en fait et que ça peut être heureux en fait, ça peut être quelque chose d'heureux. Et moi j'ai beaucoup de gens qui sont comme moi d'origine iranienne, première génération après l'exode de 80 et nombreux sont ceux qui choisissent. Soit je suis français, je veux pas parler iranien, etc. Soit je suis très 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 iranien et je veux que ça se voit. Et souvent on en parle et c'est vrai que ce truc de mélanger et d'accepter ça en soi, c'est quelque chose de pas forcément facile, pas évident. Pour moi ça a été comme ça et du coup je le brasse dans la musique, dans mon travail.
Du coup ça t'apporte une richesse aussi au niveau des mélodies, au niveau des tonalités.
Et après mon profil m'a amené à bosser beaucoup au Maghreb, beaucoup à l'étranger. J'ai étudié les musiques arabo-andalouses. En fait je me rends compte qu'au final si je fais la liste, c'est ça l'avantage quand on a un peu d'expérience et qu'on peut se retourner et regarder à quoi ça ressemble. Et en fait, en gros, c'est ce que je raconte aujourd'hui, c'est que finalement, c'est la musique du voyage. Des voyageurs, des exilés, tout ça. Et c'est vrai que je suis très, très, très vite attiré par ce truc-là. Et donc, j'ai finalement, dans mes bagages aujourd'hui, j'ai toutes ces musiques-là du voyage, des voyageurs. Et je veux en faire... je mélange tout ça pour raconter mes voyages à moi, quoi.
Oui, c'est une intimité partagée, du coup.
Voilà, je suis beaucoup là-dedans. Mes potes me disent « Arash, tu pourrais faire preuve de plus de pudeur ». Je ne sais pas faire autrement. J'ai besoin d'être entier, en fait.
Oui, d'être toi-même, tout simplement.
Ouais. Et ce qui se passe sur ce répertoire-là, c'était vraiment pas prévu que ce soit aussi vertueux, j'ai envie de dire. Il y a eu un nœud d'énergie qui a fait qu'on est parti sur ce projet-là du solo que je porte en tant que chanteur, etc.
Oui, sur l'album Tout ira bien, donc il est paru en avril 2018.
Ouais, on n'en a pas parlé, mais...
Un
album de chansons.
On écoutera d'ailleurs un extrait en fin d'émission.
Un album de chansons, donc moi, j'étais pas du tout forcément dans ce registre-là. Je me rêvais, faire du hip-hop, du reggae, tout ça. Bon, je me retrouve à faire des chansons, mais en fait, elles m'appartiennent vraiment. Et on a travaillé avec mon pote Smadj qui m'a aidé à la réalisation. Et en fait, l'idée, c'était ça. Très vite, il a compris qu'à un moment donné, il fallait que je trouve ma vérité. Donc, c'est hyper thérapeutique ce qui m'arrive avec ce projet.
Smadj, qui est un peu dans cette mouvance aussi, qui est tunisien, lui, qui est un oudiste réputé, et qui va vers des touches électro, qui va mélanger
c'est un des pionniers
en France et en Tunisie pour le coup. Et donc, à mélanger l'instrument traditionnel, le oud, donc, avec des sons électro très pointus, très modernes, très urbains, finalement, et créer une identité qui est la sienne,
voilà,
qui est à la la confluence de plusieurs mondes,
oui, oui.
tel qu'il est, comme tu
et
es
c'est
aussi.
C'est ça qui
toi.
Est magnifique, ouais, de voir des artistes qui sont au plus proche d'eux-mêmes. Et en fait, c'est ça qu'il faut retenir finalement. T'as beau essayer de faire comme.
Il n'y a que la sincérité qui bah, touche, ouais, et qui, en fait, hein. qui se touche soi-même.
Et qui touche le public aussi.
Et qui touche
en fait.
Les autres en face. Alors, on parlait justement de ces influences iraniennes. Tu m'as proposé de me chanter un petit son a cappella pour bien qu'on entende justement cette langue, le farsi, n'est-ce pas, hein, cette culture millénaire, la culture perse, très importante dans ce vaste monde des civilisations. Tu peux nous faire un petit cadeau vocal, je dirais.
Alors c'est un texte que je traîne avec moi, c'est moi qui l'ai écrit, je suis assez fier, c'est une belle poésie, et bon, je vous expliquerai après. زندگی زیبایی رو نشون داد از آسمان تا زمین چرا یک روز باد اومد باد شدید باد شدید دنیا رو زن زیر جنگ زندان آی انسان زندان آی انسان زیبایی رو زد زمین.
Vous êtes bien sur RKS 97 FM dans votre émission L'invité du jour, et c'est Arash Salketchi qui vient nous proposer un chant de sa composition chanté en langue iranienne, le farsi donc. Quel est le propos de cette chanson ?
Le propos de cette chanson, ça raconte, après c'est très grandiloquent comme ça, mais c'est les Iraniens ça, c'est Zendegi Zibayi Roneshundot, ça veut dire la vie au début nous a montré la beauté. Azoseman tazamin cheror, ça veut dire du ciel jusqu'au sol, il y avait la lumière. Azoseman tazamin cheror. Yekruz, un jour, badumad, le vent est arrivé, un vent violent, bad et shedid, un vent violent. Donior ozadzir et jang, il a mis le monde à feu et à sang, et il a fait taire la beauté. En gros,
c'est très métaphorique toujours.
Oui,
très,
voilà,
très comme
ça.
Voilà, ouais. On est bien dans cette culture très orientale où l'image fait partie de la description du monde finalement. On essaie par des métaphores, des paraboles, d'atteindre comme ça un sentiment. C'est presque de l'impressionnisme musical, on pourrait dire.
C'est un peu ça. En tout cas, dans la poésie perse, c'est beaucoup ça en fait. Ils vont raconter, voilà, par exemple, si on prend Omar Khayyam, il a fait donc les Robayot, qui sont très connus dans le monde. C'est des petits quatrains, comme des petits haïkus, comme ça, de quatre vers. Et il parle beaucoup d'ivresse, par exemple, de vin, etc. Donc, ce qui est étonnant pour beaucoup de gens qui connaissent l'Iran comme quelque chose de très. Un peuple très, très fermé, voilà, musulman et tout ça. Mais en fait, avant que Khomeini arrive, etc., il y avait de l'islam hein, dans le bassin oriental, mais dans le golfe persique. Mais c'était pas le truc premier, en tout cas c'était pas dans les lois, quoi. C'était pas la République islamique.
Oui, mais c'est une culture zarathoustrienne.
Voilà, c'est zarathoustrien. Et en fait, ce rapport à l'ivresse, il faut bien l'entendre que c'est hyper imagé en fait. C'est l'ivresse de la vie, c'est l'ivresse
de l'amour,
etc. Et Omar Khayyam, pour être un peu provocateur, parlait du vin, parlait de l'ivresse très concrète comme ça. Mais en fait, non, c'était toucher une ivresse plus noble que ça.
Plus spirituelle finalement.
Voilà, ouais,
tout à fait. Alors on va revenir sur ton parcours si tu le veux bien.
Ouais.
On parlait des premières armes avec tes compagnons. De Shahadi, de 98 jusqu'à 2005. Et 2005, là, tu rencontres aussi d'autres personnages. Et vous fondez le MZL Café, n'est-ce pas ? C'est une expérience qui a duré aussi 8 ans, n'est-ce pas ? Où vous avez beaucoup tourné, d'une manière très festive, comme ça. C'était un peu un exutoire, ce groupe, non ?
Complètement. En fait, Shahadi, donc, on a décidé d'arrêter parce que voilà, machin. Et entre-temps, j'avais rencontré ces deux gars-là, Benoît Hasbrouck et Dimitri Ferreira. Et en fait, par réseau de copains, en fait. Et puis moi, à l'époque, je me trimballais toujours avec ma flûte en bandoulière. Et puis, dès que je pouvais, je buffais avec les gens. je faisais du bruit dans les soirées, machin. Voilà, on avait toute une mouvance, voilà, on avait 20 piges avec les Mango Gazzi aussi, il y voilà. avait les Nomades, enfin il y avait tout plein de musiciens comme ça, et puis on se rêvait un peu, on avait des grosses colocs tous, voilà. Et puis Ben et Dim arrivent, ils étaient sur la route, et puis ils m'expliquent un peu leur vie. Moi à l'époque j'étais dans un couple pas très heureux, j'étais prof de musique pour gagner ma vie, tout ça, et eux ils me disent que c'est la vie de bohème, quoi, comme moi je pouvais la fantasmer de mon côté, comme ça. Et on buff, il y a un truc qui match en tout cas, ils cherchaient, tu vois, ils avaient besoin d'un soliste, il y avait une troisième énergie, tu sais, quand t'es en duo c'est bien, mais le trio, il y a quelque chose de l'ordre de la circulation qui est vraiment bien. Et du coup ça a vraiment matché, moi j'étais en quête aussi de respirer et puis de folie un peu. Et du coup bah, j'ai tout plaqué en l'espace de quelques mois et je suis parti, le premier truc c'était le off du Printemps de Bourges. On est parti en camion et puis c'est parti là, et puis là l'aventure a commencé, puis on faisait des cartons quoi, on jouait dans la rue en fait. Il faut savoir que d'abord on jouait dans la rue, puis les copains nous invitaient dans leur bar quoi, mais c'était vraiment très 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 pas du tout très comment dire,
spontané quoi.
Ouais, spontané, artisanal quoi, oui, l'affaire. Oui. On était vraiment musicien de rue et on construisait notre planning autour de ça. Et du coup, voilà. Et ça a commencé comme ça. 3 ans, vraiment, on n'avait pas d'adresse, pas de logement. On avait un camion. Et puis, on squattait chez les gens qu'on rencontrait, les filles qu'on rencontrait. Et au bout d'un moment, en fait, on s'est fait repérer, quoi. Et puis, on faisait des gros, gros cartons dans la rue. C'était incroyable. Moi, j'hallucinais complètement.
Ouais, c'est une école aussi particulière, du coup. Ouais. D'adaptabilité, de
c'est
spontanéité.
Oui, d'accroche.
Et puis de jeu de avec séduction, le public, comme ça. Il y a une relation directe. Et puis, il n'y a pas cette barrière de la scène, cette fameuse.
Non, le quatrième mur.
Ce fameux quatrième mur, là, vous êtes en confrontation et en osmose directe avec le public. Ça marche ou pas ? Il n'y a pas d'intermédiaire.
Ouais, c'est ça. Et puis, du coup, petit à petit, on a développé. La première fois où on s'est pris vraiment une claque, c'était au Festival d'Avignon. On a dit, allez, c'est parti, on va faire les fous là-bas, parce qu'il y avait plein de monde, et puis voilà, ça pouvait marcher. Et en fait, là-bas, les gens sont venus voir des spectacles pour de vrai, et nous, on était encore au stade où on jouait nos chansons. Et là, on a vraiment compris qu'il fallait qu'on fasse un truc. Et en l'espace de 2-3 jours, on a peaufiné, tu vois, un truc autour du spectacle. Et d'un coup, ça nous a amené dans une autre dimension, quoi. Et ouais, l'école de la rue, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je le conseille à plein de gens. Enfin, à tout le monde, quoi.
C'est ça. Alors, on va continuer le parcours. 2005, on arrive jusqu'en 2013. Et là, un autre projet, parce qu'en fait, finalement, malgré les porosités qui existent entre les différents groupes, tu vas aller buffer, comme tu le disais, à droite, à gauche, avec les copains de la scène locale. Puis voilà, ça, l'occasion fait le larron un petit peu. Mais du coup, se créent aussi des projets nouveaux, des envies nouvelles.
Oui, puis tout le long. Moi, je suis un musicien un peu à 360 degrés. J'ai toujours eu soit plusieurs groupes, soit aussi des contrats. Je suis aussi compositeur pour des compagnies de danse. Tu vois, je travaille dans le milieu du théâtre aussi, depuis Belle Lurette. Je fais de la musique à l'image aussi. Donc, en fait, quand t'es musicien, enfin, moi, c'est comme ça que je le conçois, c'est voilà, t'as tes groupes de musique actuelle, ça fait plaisir, la tournée, etc. Puis t'as aussi les choses qui sont plus intimes ou qui sont plus de l'ordre du travail en amont sur des spectacles. En tout cas, moi, c'est ça mon credo. J'ai aussi donné quelques cours, des masterclass par-ci, par-là. Donc, en fait, oui, les groupes s'enchaînent, mais disons que moi, pour moi, c'est tout ça, c'est une continuité, quoi.
Oui, bien sûr, on n'est pas dans des compartiments.
Dans des ruptures à
voilà,
chaque fois.
C'est ça, évidemment, c'est une porosité permanente. Voilà, c'est ça. Donc, se crée le groupe Pan, n'est-ce pas ? Très chouette projet, très électro, avec une voix scandée, comme ça, un peu brutale, un peu comme
très
ça,
dark.
Un peu dark, avec tout ma guité, des Barbarins fourchus, et puis donc le guitariste Didier Boucher, ex-Gnawa Diffusion.
Voilà.
Et là, vous avez fait quand même pas mal de dates aussi, beaucoup,
un
travail
tenté.
De résidence aussi qui était assez costaud.
On a fait
costaud.
Un gros travail, autour de la création vidéo. Voilà, avec Julien Hureau, qui est aussi un des techniciens membres des Barbarins Fourchus, et qui est sur la lumière. Lui, il a apporté son outil vidéo. Moi, je tripais là-dessus. En fait, c'était Pan, il a été un peu créé vite fait en réaction à la fin d'Emzel, où effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était très, 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 très festif. Et moi, au bout d'un moment, voilà, j'arrive à 32 ans, et je me suis posé des questions sur le rythme de vie que j'avais envie d'avoir. Voilà, j'étais en train de me reproduire, comme on dit. Et du coup, les questions se sont posées artistiquement, tout ça, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et puis c'est vrai que MZL, ça ne correspondait plus. Tous les trois, on a décidé de mettre un stop à ça. Et du coup, je me retrouve un peu sans rien aussi, tu vois. Donc, j'avais mon petit home studio et j'ai commencé à balancer tout ce que j'avais pas pu pendant ces dernières années-là sur l'ordi, à composer des trucs. Et étonnamment, le machin, direct séduit Laurent Stahl du Cabaret Frappé. J'étais carrément sélectionné aux Inouïs du Printemps de Bourges. Mais moi, j'avais même pas de nom de groupe. J'avais pas de line-up. Enfin, j'avais personne. Du coup, en trois semaines, un mois, j'ai dû monter une équipe, machin, trouver un nom, tac, tac, tac. Et puis voilà, les choses sont enchaînées. Après, je pense que c'était... Voilà, là, je vais le mettre en jachère, ce projet. Parce que du coup, le solo a pris quelque chose de plus vertueux. Et puis voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que je pense qu'on n'a pas réussi... Bon, c'est moi qui dirigeais quand même, mais après l'idée du groupe, etc., on n'a pas réussi à être clair sur le propos. Moi aussi, en fait... c'était hyper dark, en même temps je voulais que ce soit un groupe très, tu vois, qui joue de la musique, en même temps j'avais des textes hyper, hyper chiadés, tu vois, où il fallait rentrer dedans, etc. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je pense qu'il y avait un gloubi-boulga comme ça, de tout ce que j'avais envie de faire.
Oui, c'était peut-être une étape de transformation de ta volonté de création, puisqu'effectivement, les textes ont pris une importance plus grande, plus peaufinée, et ce qui t'amène aujourd'hui, et depuis l'an passé, donc, à la sortie de l'album Tout ira bien en avril 2018, à là, pour le coup, te mettre les tripes un peu à l'air, n'est-ce pas, hein, et puis à rentrer dans une intimité qui, jusqu'alors, était peu évidente, puisque derrière un groupe, derrière du gros son, derrière la fête, derrière avec une exigence artistique, mais moins en avant. Justement, cette transition, elle s'est faite pour toi de manière naturelle avec cette transition-là, et parce qu'il y a une sorte de danger, enfin, très relatif.
Non, mais ça fait un peu peur. Mais en fait, non, c'était, je te dis, moi, au moment où le truc se décide, je voulais faire l'album de Pan, en fait. Ça faisait un moment qu'on traînait, tout ça, et je me dis, bon, allez, vas-y, viens, on fait au moins cet album, comme ça marquera un truc, et puis après on verra, si, parce que on commençait déjà à plus être trop convaincus les uns les autres du projet. Et en fait, Charline de Matcha, les éditions Matcha,
qui produit l'album,
qui produit, puis qui est aussi Charline, son entité propre, et c'est mon agent, donc elle gère aussi toutes mes activités connexes. Et donc j'avais Smadge aussi, avec qui j'ai pas mal collaboré ces dernières années, puis je lui avais demandé de faire de la réal de l'album de Pan, en fait. Et ils sont tous écoutés, machin, les différentes propositions que j'avais. Smadge me dit, bah en fait, je vois deux choses. Il y a un truc très, très musical, électro, un peu à la ZX, comme ça, on pourrait aller vraiment loin là-dedans. Mais du coup, au détriment de tes textes. Et puis, il y a tout un côté un peu chanson, poésie, etc. Qu'est-ce que tu veux faire? Lui, il n'avait pas de jugement de valeur. Et Charline, elle me dit, bah moi, franchement, ce que j'ai vu ces dernières années de toi, je pense que c'est le moment là que tu fasses un truc tout seul. Parce qu'en plus, j'étais toujours là à râler, mais de toute façon, parce que quand tu partages avec les autres, t'es aussi dans des compromissions. Et c'est vrai que je commençais à être un peu arrogant dans le sens, ah mais c'est bon, si j'étais tout seul, au moins je le ferais, tu vois, machin. Et en fait, c'est débile. Donc du coup, là, ils m'ont dressé un tableau qui faisait que bah, ça paraissait comme évident de... Vas-y, on l'attente, tu vois. Okay.
D'où la nécessité aussi d'avoir un œil extérieur et bienveillant qui permette aussi de remettre le curseur au bon endroit.
C'est ça.
À un moment donné. Et avoir ce recul, parce que quand on est dedans, c'est compliqué d'avoir un œil objectif.
Puis moi, je suis un peu un gars fourre-tout, quoi. Tu vois, c'est au pire. Voilà, tu verrais l'état de mon appart, j'ai envie de dire. Non, mais c'est ranger la chambre un peu. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu as tellement la tête dedans que tu n'as pas de recul. Et c'est hyper important d'avoir quelqu'un. Et moi, par exemple, c'est la première fois où justement j'ai laissé de côté un peu mon orgueil, parce que j'ai toujours voulu. Voilà, je l'assume, je sais que je le soigne et tout ça, mais voilà, j'ai eu des moments où j'étais trop orgueilleux et je voulais tout faire tout seul. Et en fait, c'est débile, parce que faire tout seul pour qu'à la fin, il soit bourré de maladresse, bah, autant se faire accompagner par quelqu'un justement qui est bienveillant et qui a ce recul-là et qui veut juste faire en sorte que toi, ça éclose de la meilleure manière possible, quoi.
Alors, on fait une deuxième pause musicale sur RKS 97FM dans votre émission L'Invité du Jour, en compagnie d'Arash Sharketchik, qui a sorti donc il y a un an maintenant un très bel album de chansons plus intimiste, dont on va parler un peu plus en détail par la suite. On écoute le titre qui s'intitule « Puisqu'au final ». Je vous conseille d'aller le voir sur le net, parce que le clip est très bien réalisé, avec une belle ambiance.
Antoine Dubois, qui est...
On en reparle tout de suite après sur RKS 97FM. On écoute. C'est parti.
Puisqu'au final nous tiendrons le choc, nous qui ne nous sommes aperçus de rien, ce sera le balado. Toutes les nuits sont à nous, nous qui au final n'avons besoin de rien, si ce n'est de tout le reste. Nous traînons dans la boue, des casseroles aux chevilles, ça serait bien qu'on ne se les trimballe plus pour un dernier tour de piste, pour le reste on verra bien. Tu laisses dans la tonsure un zeste de petit rien. Pour le reste, on verra bien. Que ça fait du bien, les jambes à notre cou, bien que partout les barricades s'élèvent depuis devant nous. Sur quatre bancs, a priori, nous ne trouverons rien. Si ce n'est pour le reste, si ce n'est pour le reste, tu laisses dans la tonsure un zeste de petit rien. Pour le reste, on verra bien.
Sur RKS 97 FM, dans votre émission, l'invité du jour en compagnie d'Arash Sarkechik, dont on vient d'entendre un extrait de l'album Tout ira bien. Le titre s'appelle Puisqu'au final. Vous allez sur le net et vous tapez Arash Sarkechik ou puisqu'au final, pardon, et vous aurez ce très beau clip en noir et blanc qui a été produit. Donc on parlait un petit peu du parcours d'Arash et de cet album tout à fait intime qui finalement est une continuité un peu logique en épurant tout le travail que tu as eu accumulé pendant ces 20 années de scènes, de rencontres, d'influences diverses et variées entre l'électro, les instruments, parce que tu es un multi-instrumentiste et quelque chose qui t'importe, le son d'une belle guitare, d'un tar par exemple, ou d'autres instruments traditionnels ou plus classiques comme la guitare par exemple. Et justement, est-ce que c'est ça qui est difficile à un moment donné, c'est de synthétiser et d'épurer, parce qu'on on est riche, enfin tu es riche comme chacun de nous, de plein d'expériences, de plein de choses, puis revenir à la substantifique moelle, c'est compliqué peut-être.
Hyper compliqué, ouais, et puis surtout quand t'as la peur du vide, en fait. Moi je suis un gars, j'ai très peur du vide, et du coup j'ai beaucoup, même dans mon travail, ça s'entend, hein, tu vas écouter un peu tout ce que j'ai fait, c'est très chargé, il y a 15 morceaux en un, voilà, la gestion d'une structure, etc., une espèce de côté un peu impatient comme ça. Et c'est vrai que là, encore une fois, l'effort a été fait de justement d'épurer, d'aller à l'essentiel. Par exemple, on s'est retrouvé avec Smadj, et Smadj il m'a dit « Ok, maintenant tes chansons, ça faisait des années que je composais que avec l'ordi, tu vois, avec des patterns, des machins, je rajoutais des synthés de partout, etc. » En fait, il a dit « Ok, maintenant on oublie tout ça, tu prends une guitare et tu fais exister ta chanson avec la guitare. Et après, on reconstruit. » Et là, ça a été magique pour moi de me dire « Ah mais ouais, mais c'est ça en fait le truc, tu vois. » Donc, de commencer à la guitare, etc. Et après de reconstruire. Et là, on avait une volonté de faire résonner les instruments. Donc, on a invité des instrumentistes à jouer les arrangements qu'on avait imaginés. Donc, c'était vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé comme ça. Et c'était hyper... le résultat, moi, je suis hyper content en tout cas. Voilà.
Oui, parce qu'on est dans une poésie, justement.
Ouais, où il y a un univers qui se dégage.
Voilà,
ouais.
Les textes sont vraiment très présents. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, ces voyages qui t'ont aussi nourri.
Ouais, il y a un côté blues comme
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis, malgré tout, il y a quand même toujours cette base rythmique qui est là, qui groove, qui envoie, pour quand même que ça soit pas non plus dans une chanson un peu tristoune, non, quoi, voilà. Un peu comme ça, pathétique.
Oui, et puis l'idée, c'était d'être... je suis là, à ce stade-là de mon travail, c'est... toujours réfléchir à l'équilibre qu'on doit mettre entre l'ombre et la lumière, quoi. Moi j'ai tendance c'est plus facile de, en plus voilà, mon côté lyrique comme ça perce, tu vois, me laisser aller à ça va pas et tout machin etc. Et en fait toujours après en termes de travail, garder cet équilibre entre ombre et lumière pour que le machin soit digeste et qu'il soit présentable et qu'on puisse en rire autant qu'en être touché. Et en fait voilà, d'arriver à créer quelque chose comme ça d'un peu global comme ça dans chaque titre et dans chaque création proposée, quoi.
Très bien, merci beaucoup Arash d'être venu en studio sur RKS, dans l'émission L'Invité du Jour. Je rappelle que tu es en tournée Tu étais en tournée.
Encore beaucoup jusqu'à fin octobre. Et après, c'est beaucoup de création, de résidence de création sur le spectacle, parce que c'est un solo en fait, en live. Et du coup, il y a encore plein de choses à inventer.
Avec toi sur scène, des instruments, un looper.
Plein de loopers, j'ai
ta voix,
tout un dispositif.
Et tes textes, évidemment, qui sont à découvrir. Et bien sûr, bien évidemment, sur scène. L'album s'appelle Tout ira bien. Il est disponible depuis avril 2018. Chez les bons disquaires et puis dans toutes les plateformes imaginables, numériques, bidule, machin. Merci beaucoup, Arash.
Bah, merci à toi.
Et on se retrouve sur scène, bien sûr, parce que c'est là que prend toute la dimension du spectacle vivant, notamment de la musique. Allez voir Arash Salkechik sur scène. C'est là qu'il donne le meilleur de lui-même à travers sa musique et son talent. Merci beaucoup, Arash.
Merci.
À très bientôt. On se retrouve, quant à nous, eh bien, demain pour une nouvelle émission de l'invité du jour. Bonne journée à vous. À très bientôt.
12h30, 13h, chaque jour sur RKS, c'est l'invité du jour.